Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Spiritualité en question. Bonsoir. Alors, j'accueille Jean. Jean, est-ce que tu m'entends ?
Très bien. Je t'entends très bien, Cédric.
Voilà, donc bienvenue pour cette émission qui a été décalée d'une semaine, hein, parce qu'il y a eu des petits soucis, hein, mais bon, rien de très grave. Donc, du coup, bah, c'est ce mois-ci, hein, pour finir justement, pour rappeler que pendant la période estivale, il n'y aura plus de direct. Hein, on reprendra donc en septembre 2016. Avec l'émission d'Anne-Catherine Sabas. Donc ce soir, vous allez donc avoir l'émission Spiritualité en question avec Jean. Et à la fin du mois, il y aura une deuxième émission. Hein. On peut dire que Jean, ils vont être gâtés ce mois-ci, nos auditeurs.
Mmh.
Voilà, alors... oui ?
Oui, mais tant mieux.
Je pense que, comme on dit, il n'y avait pas de hasard. Je pense qu'avant les vacances, il devait y avoir une double émission ce mois-ci pour... justement compenser les deux mois, on va dire, de pause.
Oui, de pause.
Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet de la spiritualité. Hein. Donc, je le rappelle que vous pouvez poser vos questions directement en direct sur notre antenne. Alors, il suffit juste de nous envoyer un message à partir du site internet www.radioterrazen.net en cliquant sur le bouton « Poser une question ». Alors Jean, qu'est-ce qu'on va pouvoir parler ce soir justement sur le thème de la spiritualité ? Est-ce que tu as déjà un petit peu réfléchi sur un thème que tu voudrais aborder ce soir ?
Pas spécialement, mais on peut revoir ce que je dis souvent. Parce que justement, c'est marrant parce que j'étais en train d'envoyer une lettre aujourd'hui, elle n'est pas partie, elle va partir tout à l'heure.
D'accord.
Et j'ai abordé justement qu'est-ce que la spiritualité ? Donc, et on tourne autour de la même question et de la même réponse. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité ? Et c'est bien de creuser cette question et de jamais s'en éloigner. Et en fait, c'est très très simple pour moi. Hein, je veux dire, chacun verra la spiritualité là où bon lui semble. Hein. Mais pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de très simple. En fait, et c'est ce que j'écrivais dans ma lettre, qu'est-ce que la spiritualité ? Et je commençais par dire que, en fait, les savants de la Grèce antique disaient cette phrase et définissaient la spiritualité par ces mots, par ces quatre mots, « Connais-toi toi-même ». Ça, c'est une phrase que tout le monde connaît, on a entendu par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est ça, connais-toi toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Oui.
Alors, voilà, si tu veux m'interrompre, Cédric, tu peux. Hein.
Oui, il n'y a pas de souci, je te laisse continuer sur ton élan.
Et voilà, donc, connais-toi toi-même. Et en fait, la spiritualité, ça consiste à prendre conscience, en fait, que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner dans ce monde de la matière, venus s'incarner dans un corps physique mental et émotionnel, pour vivre des expériences dans la matière, tout simplement. Et vivre la spiritualité, c'est s'en souvenir, en quelque sorte. Hein. C'est se rappeler, ne jamais oublier que nous sommes avant tout, et surtout, des êtres spirituels. Et nous ne sommes pas ce corps que nous voyons, que nous voyons tous les jours, qui est notre véhicule et qu'on doit beaucoup aimer parce que sans lui, eh bien, rien ne serait possible. Mais nous ne sommes pas ce corps. Et ça, c'est important de jamais l'oublier. Nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes tous, chacun d'entre nous, un être spirituel, une émanation de cette divinité que chacun appellera du nom qu'il voudra. Et voilà, et c'est ça que nous sommes, quoi. C'est ça la réalité, hein, qu'il ne faut jamais oublier. Voilà. Et en fait, nous ne sommes pas cette voiture, ce corps, parce que le problème, c'est qu'on s'identifie à ce corps, on s'identifie à cette voiture, et on passe notre vie à s'identifier à ce corps. On croit qu'on est ce corps, puisqu'on dit on va mourir, mais personne ne va mourir, personne ne meurt. Ce sont nos cœurs, nos corps qui vont un jour cesser de fonctionner et qui vont s'arrêter, qu'on va brûler, qu'on va enterrer, peu importe. Mais ce sont nos corps qui s'arrêtent de fonctionner. Mais nous, on continue de vivre. On ne s'arrête jamais de vivre. Hein?
Oui.
L'être spirituel que nous sommes n'a pas de début, n'a pas de fin.
Juste pour t'interrompre quelques secondes, parce que je pense que la plupart des auditeurs ne savent pas trop. Quand tu parles de nos corps, c'est quel type de corps? Donc je sais qu'il y a le corps physique, mais il y a d'autres corps?
Bien, le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel. Moi, je les qualifie toujours de ces trois noms. Le corps physique, hein, c'est la matière, ce que nous voyons. Le corps mental, ben, c'est cette enveloppe qui nous entoure et que nous ne voyons pas, mais qui existe. Et le corps émotionnel, hein, tout ce monde des émotions qui nous habite, qui vient de nos mémoires, de nos pensées, etc., hein, de nos croyances. Ce monde des émotions fait partie du corps. Il ne fait pas partie de l'être spirituel que nous sommes. Et le mental, bien entendu, il fait partie intégrante du corps, puisque c'est son bras principal, c'est le mental. C'est le mental qui dirige, en fait. Et c'est le mental à travers le mental qu'on s'identifie. Hein. Le mental, le corps, c'est la même densité, le même taux vibratoire. Mais nous ne sommes pas ça. Nous ne sommes pas tout ça. Voilà.
Ok.
Moi, j'ai eu cette expérience que je raconte souvent, mais mon expérience, des milliers de gens l'ont connue. Hein. Mais moi, elle m'a frappé en ce sens que, enfin, je veux dire, cette expérience, j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Hein. Toute simple. Mon cœur s'est arrêté à la suite d'une anesthésie. Quelque chose des plus classiques, hein, puisque maintenant on peut entendre des milliers de ces sortes de témoignages.
Oui, par justement
Moi,
par le biais de Jean-Jacques Charbonnier, hein, pour
notamment, oui, il fait un travail fabuleux, lui. Et d'autres, bien sûr, et de plus en plus de médecins s'y penchent dessus. Hein.
Oui, tout à fait.
Et moi, j'ai eu cette expérience que je ne vais pas raconter, mais parce qu'on peut l'entendre partout. Mais moi, ce que j'en ai retenu quand j'ai vu mon corps, alors que j'étais très très haut, quand j'ai vu ce corps qui était là, j'ai ressenti pour lui une parfaite indifférence. Et à partir de là, et donc bon, je ne raconte pas, je suis resté, il m'a semblé que le temps a duré très longtemps, et ensuite je suis rentré dans ce corps, alors que je ne voulais pas y venir, je ne voulais pas rentrer dans ce corps, je voulais partir. Mais il y a une chose qui m'est restée, et c'est ça qui a marqué ma vie. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à chercher exactement qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que j'avais vécu. Mais ce qui m'est resté, c'est que quand j'ai vu mon corps, j'ai compris, et je me suis dit, mais je me suis trompé pendant 40 ans, j'ai compris que je n'étais pas ce corps. Et j'étais moi, j'étais là, et je voyais ce corps. Et j'ai bien vu que je n'étais pas mon corps. Et quand j'ai réintégré ce corps, et quand en réintégrant ce corps, j'ai réintégré toutes les souffrances qui étaient attachées, eh bien, tout de suite, ça ne m'a pas fait tilt, mais c'est resté dans ma mémoire. Et peu à peu, par des lectures, par des rencontres, tout ça, j'en suis arrivé maintenant à cette réflexion de ce que je sais maintenant, c'est que nous ne sommes pas ce corps, et nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter. Venu expérimenter les émotions, tout ce que nous faisons dans notre vie, dans la matière, hein, dans cette incarnation. Et c'est à partir de cette expérience. Alors d'autres, beaucoup de gens qui ont fait cette expérience n'ont pas tiré le même type comment dire, de conséquences. Hein, des expériences sont les mêmes, mais on n'en tire pas les mêmes choses. Moi, c'est ce qui m'est resté. Et ça m'a énormément frappé. Ça a été une révélation. Une révélation. Voilà. Et c'est ça mon chemin vers cette spiritualité que j'explique maintenant.
Oui, faut comment dire un petit peu rappeler aussi que ce que tu me dis, c'est très souvent ce qu'on entend comme témoignage des personnes qui ont vécu donc une EMI ou une NDE pour
Oui.
la version anglaise. Ils racontent toujours le même genre de témoignage. Hein. Le côté de revenir dans le corps, ils voulaient pas, hein, ils en avaient absolument pas envie. Hein. D'ailleurs, ils ne regrettaient pas tout ce qu'ils avaient sur Terre. Hein. Ils voulaient qu'une seule envie, c'était de rester dans ce monde ou dans ce passage-là. Parce qu'il y en a qui ont, comment dire, vu le tunnel, d'autres ils ont vu d'autres scènes, donc chacun a eu son expérience.
Oui, bien sûr.
Et au retour, d'ailleurs je me souviens, c'est un monsieur d'un certain âge qui lui disait quand il a repris possession de son corps, il a donné l'exemple, il a dit c'est comme si je mettais en fait un gant sur mes mains. Il a dit je suis rentré par la tête, le dessus de la tête, je suis rentré dedans comme un gant. Donc je sais.
Cédric, je te coupe, s'il te plaît,
Oui?
je t'entends pas très bien.
Ah.
Ça, c'est haché et il y a des mots que je n'arrive pas à entendre.
D'accord. Donc, je pense que peut-être que c'est le retour qui a un petit souci.
Ah, peut-être. Alors,
Voilà.
je vais m'appliquer et me concentrer à t'écouter.
Voilà. Donc,
Oui, donc tu disais qu'une personne, un monsieur, a vécu cette expérience, et puis les expériences sont toutes différentes.
oui,
Bon, il y en
voilà.
a qui ont le tunnel, et puis certains ne voulaient pas revenir. Hein.
Voilà, tout à fait. Et lui, il donnait en fait l'exemple qui, comment expliquer ça? Qu'il était rentré dans son corps comme s'il mettait un gant sur une de ses mains.
Ah oui, d'accord, oui.
Voilà.
Comme un gars. Ok, mais voilà. C'est un ressenti qui lui est propre, mais c'est intéressant.
Tout à fait.
Ouais.
Et il était rentré par le haut de la tête, en fait, par le chakra coronal. Il était rentré là, il a repris possession de son corps.
Ah ouais.
Et pareil, la même chose que tu as dit, en fait, les douleurs, en fait. Et
Oui, exactement. Ouais.
donc voilà, ce sont tous des témoignages différents de personnes différentes qui n'ont pas du tout le même vécu et qui racontent pourtant la même chose. Donc c'est pour ça que ça prend beaucoup d'ampleur et que le travail de Jean-Jacques Charbonnier est très important.
Ah oui, très très important. Je me souviens d'avoir passé une soirée avec lui. C'est un être charmant avec son épouse et la mienne. Tous les quatre, nous étions au bord du canal près de Carcassonne.
Oui.
C'est un être charmant, grande sensibilité, grande intelligence. Et l'humanité a beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme lui qui transmet ses messages. C'est magnifique. Oui.
Tout à fait. Comme celui qui est le médecin américain, je crois que c'est Raymond Mundy, il me semble, qui s'occupe aussi du même genre de choses.
Vraiment, on dit oui.
Voilà. Qui a écrit plusieurs livres aussi sur le même sujet. D'ailleurs, je crois que les deux se sont rencontrés, il me semble.
Oui. Alors, le livre de Raymond Moody, c'est le premier livre que j'ai lu et qui m'a éclairé parce que j'étais un peu dans la confusion quand j'ai eu mon expérience au tout début. Et assez rapidement, je suis tombé sur son livre. Et là, ça a été pour moi une révélation que j'ai lu plusieurs fois, bien sûr. Et là, d'un coup, j'ai commencé à comprendre, à intégrer ce que j'avais vécu, quoi. À le vivre enfin, quoi, mais à le vivre différemment dans la matière, quoi. Et à vivre cette spiritualité maintenant qui a commencé. Mais c'est par ce livre de Raymond Moody. Un
Oui.
livre que tout le monde devrait lire, il se lit très facilement, c'est superbe. Ouais.
Oui, parce que c'est vrai que lui, c'est quand même été le précurseur en fait de ses recherches, hein,
Ouais.
notamment.
Et oui, et oui, et oui. Et oui, et puis moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai énormément lu, je me suis beaucoup renseigné, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et c'est vrai que. Après, j'ai eu une deuxième expérience, mais très rapide, très fugitive. Je suis parti et je suis rentré. Bon. Ça a été très rapide. Mais c'était intéressant quand même de voir qu'il était possible de laisser son corps et de partir, quoi. Alors après, j'ai rencontré d'autres personnes. Ah, par contre, celles-ci sont moins nombreuses. Mais il en existe pas mal. Des gens qui sont capables à volonté, de sortir de leur corps et d'aller voyager. Alors
D'accord.
j'en ai rencontré, il y a pas mal de gens comme ça. Il y a notamment le plus connu, enfin un des plus connus, c'est Michael Rhodes, un Australien. Il y a Emilio Carrillo, un Espagnol, et
Oui.
puis bien d'autres. Et puis bien d'autres. Alors ces gens-là, bien, c'est sûr, ils sont partis d'une expérience comme la mienne, et leur, comment dire, leur capacité justement de d'aller percevoir ces autres mondes se sont développées chez eux, et ils ont cette capacité maintenant de sortir à volonté de leur corps par une courte méditation, et hop. Il y a pas mal de gens comme Angie Vaudan, par exemple, je crois,
Oui,
Daniel Meroy,
effectivement, qui ont
et
écrit
beaucoup
beaucoup de
d'autres.
livres. Oui.
Beaucoup d'autres, hein.
Donc, juste pour faire
Travers
le...
eux,
Oui.
je veux dire, je termine, et à travers eux, c'est vrai qu'on apprend beaucoup. Voilà.
Oui, tout à fait. Juste pour faire le distinguo, en fait, ça, c'est un rapport avec le voyage astral ou c'est totalement différent?
Tu veux dire que c'est totalement différent de quoi?
Alors... Ça dépend après le terme comment tu le vois toi en fait le terme de voyage astral.
Ah bon, je m'y attarde pas là-dessus.
Donc ça n'a
C'est
aucun
pas.
rapport parce que c'est juste pour faire le distinguo pour les auditeurs en fait.
Oui, bien sûr. Y a toutes sortes de voyages astrales. Hein. Chacun a sa perception, chacun a ses capacités de faire telle ou telle chose. Ce qui est intéressant, c'est les informations qu'ils peuvent nous en amener, hein, à propos de, eh bien, à propos de cette vie qui se passe au-delà, hein, de cette vie qui se passe au-delà et comment ça se passe, etc. Bon. Mais c'est pas, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse tellement, hein, de voir de tous ces voyages qui
Oui.
se passent. Bon, c'est intéressant, c'est passionnant, mais c'est tellement plein de mystères pour nous que, bon, est-ce que ça vaut le coup de, est-ce que c'est intéressant de s'y intéresser beaucoup? Je ne sais pas, chacun le fait comme il le sent, mais moi, j'ai écouté pas mal de choses, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est moi, c'est l'être divin qui est en moi, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Le reste n'est que le reflet de ce qui est en moi, en fait. Donc, si tu veux, quand on est dans cette recherche de spiritualité, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Et notamment en étudiant Ho Oponopono, on s'aperçoit qu'en fait, nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive, nous sommes créateurs de tout, et que tout est reflet de ce que nous sommes. C'est-à-dire que y a rien à l'extérieur de moi. Il n'y a pas d'être à l'extérieur de moi. Personne n'est à l'extérieur de moi. Ce que je vois à l'extérieur n'est que le reflet de quelque chose qui est en moi. Tu vois?
Oui.
Ce qui fait que tout ce qui est à l'extérieur est en moi. Ça, c'est ce que je sais maintenant. Et c'est ça qui m'importe. Tu vois? Donc, qu'est-ce qui m'importe? C'est de, quand je vois quelque chose à l'extérieur, donc à travers des lectures, à travers des rencontres, tout ça, comme je ne suis plus dans la séparation, à chaque fois je me dis, bon, ben là, si ça apparaît en face de moi, c'est que j'ai quelque chose en moi à intégrer, à comprendre et peut-être à changer, à évoluer, tu vois. Tout ce que je vois à l'extérieur de moi, c'est quelque chose qui m'apprend quelque chose de moi. Et c'est ça qui m'importe. Voilà, c'est ça le plus important. Alors, d'aller chercher, d'aller rencontrer des gens, écouter, et ce qui est intéressant, c'est élever son niveau de conscience, hein, par la connaissance. Donc ça, c'est important. C'est très important. Mais jamais oublier qu'en fait, il n'y a rien à l'extérieur de soi. Alors, c'est difficile à expliquer ça, mais c'est comme ça que je le vis, moi. Par exemple, on vit dans une période compliquée en ce moment.
Oui, tout à fait.
La politique, on n'y comprend plus rien. Si on reste en France, nos hommes politiques, on voit leur influence baisser beaucoup, hein. Plus personne ne va voter, il y en a plus de
Oui.
la moitié maintenant qui ne vont plus voter. Et donc, on se pose beaucoup de questions à propos des hommes politiques. Et puis, bien sûr, quand on en parle, on les critique, on les juge. Hein. Celui-ci fait bien, celui-ci fait moins bien, celui-ci ne fait pas bien du tout, etc. Donc, on est toujours dans le jugement, hein. C'est ça, hein.
Oui, effectivement.
Et oui, mais en fait, ils sont une partie de nous. Ils sont une partie de nous. Hein. S'ils sont là, c'est que C'est nous qui avons bien voulu qu'ils soient là. Ils sont toujours une partie de nous. Et en réalité, on peut observer ce qu'ils font, mais jamais les juger, et surtout les aimer. Et il n'y a que dans l'amour qu'on peut évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à travers l'amour qu'on peut évoluer. Et surtout pas à travers le jugement et la critique. Voilà. Donc, voilà. Moi, ce qui m'importe, et je trouve que c'est vraiment important, c'est de comprendre qu'à travers les autres, j'évolue. À travers tous les autres, à travers tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, c'est matière, c'est opportunité pour évoluer, pour grandir en conscience. Voilà, tu vois?
Oui.
Et ça, c'est voilà, c'est assez mon chemin dans cette spiritualité qui m'a amené justement à comprendre ça. Et si Ho Oponopono est arrivé dans notre vie, c'est pas par hasard. C'est parce qu'on était vraiment dans cette voie-là. Tu vois?
Tout à fait. Et justement, pour rebondir à une émission précédente, je ne sais plus si c'était la dernière qu'on avait faite ou l'avant-dernière, je ne sais plus. Tu avais parlé en fait de l'émergence en fait d'un nouveau monde qui était en qui était subjacent, en fait, qui était présent, mais qu'on ne le voyait pas, mais qui est... Oui?
Oui, vas-y,
Voilà.
dis-moi,
Et
oui.
que petit à petit, en fait, il commençait à prendre sa place. Alors, est-ce que ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on voit actuellement, est-ce que c'est pas justement ce nouveau futur qui est en train de prendre sa place peu à peu, en fait, ce nouveau monde qu'on appelle?
Oui, alors, c'est vrai que c'est pas simple. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le monde actuel est gouverné par le pouvoir. Hein, il y a des gens qui forment un premier cercle et qui sont dominés par la soif du pouvoir. Hein. Donc c'est un monde très, très égocentrique. Hein. Il y a un autre cercle dans lequel on va trouver toutes les entreprises, toutes les institutions comme l'ONU, etc. Toutes
Oui.
ces espèces de trucs informes où on ne sait pas qui en fait partie, mais ça va servir de tampon avec le troisième cercle qui sont nos dirigeants. Et nos dirigeants sont dominés par les premiers.
Oui.
Ça, c'est important de comprendre ça. En fait, tous nos dirigeants, qu'ils soient de gauche, de droite, tout ça, c'est le fait de dire qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est des astuces un petit peu pour nous endormir en fait, et pour nous faire parler et nous faire perdre notre temps. Mais en fait, pour nous empêcher de comprendre la réalité. Mais la réalité, c'est que tous ces hommes qui dirigent, donc les entreprises, les États, tous ces hommes qui sont en pointe, qu'on voit toujours à la télé, ceux-là sont aux ordres. Et il n'y a pas d'exception. Tous le sont. Si on parle, bon, je ne vais pas donner de nom, hein, mais
Oui.
pensez à tous ceux qu'on connaît, et on connaît bien les mêmes toujours. Et ils font le mieux qu'ils peuvent. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Mais ils sont aux ordres. Hein. Ils ne font rien que leur conscience pourrait leur dicter. Non, non, ils sont aux ordres. Alors, ce qui se passe, c'est que ce monde est en train de se mettre en place parce que, en fait, au-delà de ce troisième cercle, après, si on va au-delà du 5, 6e cercle, du cercle, on va tomber sur ben, nous, les gens du peuple, les gens en général. Mais les gens en général sont des esclaves des premiers. Mais inconsciemment, maintenant, le mode de l'esclavagisme n'est plus le même qu'il y a 500 ans ou 1000 ans.
Tout à fait.
Hein? Maintenant, les dirigeants n'ont pas le fouet à la main. Mais ils ont d'autres instruments qui sont aussi efficaces que le fouet, voire même plus efficaces. Pourquoi? Parce que on a la sensation, on a même la croyance que nous sommes libres.
Tout à fait. Oui, c'est ça. Je pourrais pas mieux dire.
Exactement. Mais il faut savoir à quel point. C'est à 100%. Il n'y a aucune liberté chez aucun être. Nous sommes vraiment de ces gens-là. Et cette domination se renforce, en quelque sorte, en ce moment. Et on peut le voir, hein,
Oui.
l'état d'urgence, les attentats, les inondations maintenant,
Passer en force des lois.
enfin, voilà, il se passe plein de choses, et il n'y a pas que chez nous, en Belgique, mais en
Partout.
Espagne, partout, pour créer le chaos, etc. Bon, bref. De toute façon, quoi qu'il se passe, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le monde, bien, on peut se dire, tiens, eh bien, ça fait partie de leur plan. Quelles vont être les conséquences de ça? Les conséquences, on les voit immédiatement. Il se passe quelque chose, il y a des lois qui sont prises, il y a des mesures, des mesures qui sont prises, etc. Et des mesures qui n'auraient pas pu être prises s'il n'y avait pas eu l'événement en question. Et c'est comme ça que ce pouvoir prend place, en quelque sorte. Alors, le nouveau monde, effectivement, il est en train d'émerger, en même temps. Mais ce nouveau monde, il part par la base. Il ne va pas émerger par un sauveur qui va venir nous sauver. Non, non. Impossible. Non, non. Ça, je n'y crois pas.
Là, moi non plus.
Ce nouveau monde, il va se construire à partir de chacun d'entre nous. Chaque personne, la plus anonyme qui soit, c'est à partir d'elle que le nouveau monde va se construire. Tu vois? Et ça, oui, c'est en train de se faire. Alors, si tu veux, il y a deux choses qui sont en train de se faire simultanément. Selon moi, hein, j'ai pas la vérité, hein, mais je le sens comme ça. Et quand j'écoute d'autres maîtres spirituels qui justement, parmi ceux qui ont cette capacité d'aller voir ailleurs, il ramène des informations qui confortent, qui confirment un peu ce que je dis là, tu vois? Voilà. Et voilà. Donc ce nouveau monde, oui, il est en train de se faire. Et il se fera par l'élévation de la conscience de chaque individu sur Terre. C'est ça qui va renverser tout. Contre l'élévation de la conscience de l'individu, aucun pouvoir ne pourra résister. Aucun. Tu vois, c'est ça qui va créer un nouveau. Mais combien de temps ça va se faire? Je ne peux pas le dire. Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 10 ans? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Mais en tous les cas, il y a énormément de signes fantastiques qui se dessinent partout, qui montrent que ce nouveau monde est en train de se construire. Mais ça ne va pas passer, ça va passer par des. Mais comme je disais tout à l'heure, le monde du pouvoir est en train de se renforcer en même temps. Hein? Je ne sais pas si tu as lu 1984 d'Orwell.
Non, mais j'en ai entendu parler, effectivement,
Ah,
oui.
il faut le lire. Il faut le lire. Et il se trouve que je l'ai lu, moi, dans cette année-là, je crois. Eh bien, on vit, mais vraiment, c'est extraordinaire. Il faudrait que je le relise d'ailleurs. Mais autant que je m'en souvienne, ce que nous vivons actuellement, ben, c'est ce que Orwell avait prévu dans son bouquin. Pas dans les détails,
Oui.
mais en gros, oui, c'est ce qui est en train de se faire. Mais comme ça se fait progressivement, on ne s'en rend pas compte. Tu connais l'histoire de la grenouille?
Oui, qui se fait cuire lentement et qu'elle s'en... Oui.
Mon ami Olivier Clerc, qui a raconté cette histoire. Si tu mets une grenouille dans une bassine, une grande bassine d'eau froide, elle va être contente, la
Oui,
grenouille. Hein, elle est
tout à
là, elle
fait.
est bien, elle est chez elle. Et tu mets la bassine à chauffer. L'eau, avant qu'elle chauffe, il va prendre beaucoup de temps. Eh bien, pendant toutes ces étapes, l'eau va devenir légèrement tiède. La grenouille va trouver ça très bon. L'eau va être un peu plus chaude. La grenouille va trouver ça très, très bien. L'eau va être encore chaude. Alors, la grenouille, elle commence à s'endormir un peu. Elle commence à s'engourdir. Mais elle trouve ça encore bien. Et l'eau, elle devient de plus en plus chaude. Et la grenouille, de plus en plus engourdie. Et elle n'a plus la force de sortir. Jusqu'à ce que l'eau boue et la grenouille meure. Eh bien, nous sommes cette grenouille, en quelque sorte.
Oui.
Tu vois? Alors, si cette grenouille avait eu, à un moment donné, quand l'eau était encore tiède, avait eu un sursaut dans son niveau de conscience, eh bien, elle aurait fait un saut, comme elle sait très bien le faire, elle serait sortie de sa bassine. Tu vois? Et
Tout
elle
à
aurait
fait.
fait sa vie libre.
Tout à fait.
C'est ce que le monde est en train de se faire, en quelque sorte. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de devenir cette grenouille, et je sens que dans les jambes, ça fourmille un petit peu, et on est en train de prendre notre élan pour sortir de la bassine.
Oui, c'est la même sensation que j'ai, hein. On voit que les gens commencent, bon, certains sont beaucoup dans la colère et tout ça, mais on sent que les gens ouvrent les yeux en fait, commencent à vouloir sortir de ce système dans lequel, donc système ou la bassine, dans lequel on nous a mis. Les gens veulent en sortir.
Oui, bien sûr. Alors, bien sûr qu'il y en a qui, à mon sens, prennent des chemins qui ne sont pas les bons. Il y a des erreurs qui se font. Mais bon, peu importe, chacun son chemin, de toute façon. Mais c'est bien que des gens réagissent, et voilà. Même si, à mon avis, ce n'est pas toujours dans le bon sens qu'il faudrait. Par exemple, manifester, par exemple. Manifester dans la rue pour, je ne sais pas, telle ou telle chose. Manifester pour des choses qui ont l'air d'être les plus belles au monde, des belles causes, tout ça. Mais moi, à mon sens, manifester, c'est jamais une bonne chose. Pourquoi? Parce que le simple fait de manifester ou de signer une pétition, c'est justement renforcer la chose qu'on veut combattre. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, ce dont on lutte, on le renforce.
On le renforce. Et oui, parce qu'on s'oppose. Il n'y a pas à s'opposer. Il n'y a pas à s'opposer. On n'a pas à résister. Voilà, pour ça que je ne signe pas de pétition. Tu comprends? Moi, il me semble que c'est la bonne voie, justement, de rester chez soi, de prier si on veut prier, de faire de la méditation si on sait faire de la méditation, de pratiquer Ho Oponopono. Et là, j'invite tous les auditeurs à le faire parce que c'est une voie fantastique. Et s'apporter la paix, je pense que c'est la meilleure voie possible. S'apporter la paix, soi. Et c'est comme ça que nous, on va se faire. C'est en s'apportant la paix. Voilà. D'ailleurs, d'un coup, j'ouvre une parenthèse. Je ne sais pas si tu as vu dans Facebook, j'ai mis une information. Un homme en Chine aurait vécu 256 ans.
Oui, effectivement, oui. Bah, je le connaissais déjà, ça, cette
Tu le
histoire.
connaissais déjà.
Oui.
Alors moi je suis très enclin à croire ça, hein, ça me plaît beaucoup. D'autant que il a dit, cet homme, parce qu'il a été questionné quand il est mort en 1930 ou 35 ou
Oui,
36.
il a enterré je sais plus combien d'épouses et d'enfants, enfin, et d'arrière-petits-enfants.
Oui. Mais quand on lui pose la question, quel est le secret de votre longévité? Et il dit, la première raison, c'est d'être en paix. C'est pas
Oui,
beau, ça? Ben
si.
voilà. D'être en paix. Cette paix intérieure, c'est ce qui guérit le tout. Bon, lui, ça lui a permis de vivre 256 ans. Je ne sais pas si c'est ce qu'on recherche, de vivre tant d'années.
Oui,
Mais
bon, il avait aussi, comme tu avais dit, il faisait beaucoup de méditation, il avait une hygiène de vie aussi parfaite, hein, on peut dire, hein, enfin parfaite. Il avait une très bonne hygiène de vie, hein, c'est-à-dire que tous les perturbateurs endocriniens en compagnie, lui, il connaissait pas. Hein, enfin, il avait vraiment un régime très spécial.
oui, mais son régime, c'était surtout la méditation
Oui,
et être en
effectivement.
paix. Et ça, c'est le plus important. Tu sais, on peut être en paix à 100% et puis manger des saucisses frites tous les jours, hein, et on sera toujours en paix, hein, et on ne sera pas malade. Hein, et on ne sera pas malade. On sera pas malade. Ce n'est pas les saucisses frites qui rendent les gens malades, hein, c'est la peur. C'est les peurs. C'est le mal-être. C'est la colère, c'est la frustration, la dévalorisation, la non-reconnaissance, toutes ces choses-là. Ce sont des peurs, ça. C'est les peurs qui rendent les gens malades. Et non pas la cigarette ou je ne sais pas quoi. Ou les virus qui se promènent. Ça fait rire, moi,
Oui.
les virus qui se promènent.
Alors justement, cette personne-là, juste pour le dire, donc alors excusez-moi donc l'expression chinoise parce que je suis pas très bon, il s'appelait Li Qingyong ou
Ah
Yung.
d'accord, oui, ok.
Voilà.
Oui. Ah mais c'est un bel exemple. Moi quand j'ai vu ça m'a beaucoup plu, je l'ai mis dans Facebook. Eh oui, tu vois.
Voilà. Alors, parce que pareil, il n'y a pas vraiment de document officiel, mais bon, il serait peut-être né vers
1680 par là.
1677, dans le Xian de Qigong, province du Sichuan.
Voilà,
Donc,
1670.
c'était un médecin pharmacien herboriste de médecine chinoise, forcément. Et il est réputé pour avoir cette longévité de 256 ans.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, si je dis qu'actuellement, il y a des gens qui sont beaucoup plus âgés que ça sur Terre, on va me prendre pour un fou, hein. Mais je crois aussi que ça existe. Il
Oui.
en existe d'autres.
Oui, parce que là, il y a quand même eu des documents officiels qui ont été faits, qui montrent que quand même, bon, alors 256 ans, c'est difficile, mais je vois là, en lisant un petit peu rapidement, le gouvernement, il a offert, a priori, un cadeau à son 150e anniversaire.
Ah ouais.
Donc il y a quand même des choses qui montrent qu'il a vécu au moins officiellement plus de 150 ans. Après 256, ça reste encore assez vague. Voilà. C'était juste pour un
Oui,
petit peu complémenter le.
mais c'est vrai, mais bon, même si c'est pas tout à fait juste, même s'il a vécu que 180 ans, même 140, ça serait déjà intéressant, tu vois.
Oui.
Ça, voilà, 256, moi ça m'a beaucoup amusé, mais je crois bien. Mais bon, si c'est pas vrai, tant pis, ça ne détruit pas ce en quoi je crois, là, parce que la paix intérieure, je sais que la paix intérieure peut t'amener loin, quoi. Hein, voilà. Et alors, je voulais dire aussi une chose, on parlait de... Oui, est-ce que tu as une autre question, Cédric, dis-moi.
Non, pour l'instant, j'ai pas de questions, mais bon, justement, je vais rebondir sur ça. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, vous pouvez poser vos questions sur le site de www.radioterrazen.net en cliquant sur le bouton poser une question. Voilà, donc n'hésitez pas à intervenir pour soit confirmer certaines choses ou poser des questions à Jean. Voilà. Donc, je vais revenir à qu'est-ce que tu voulais dire justement?
Non, je voulais revenir juste un petit mot sur ce qu'est la spiritualité, parce que ben, chacun a sa définition. Hein, on ne peut pas aller contre, et puis c'est très bien comme ça. Mais moi, ce que je crois, c'est que la spiritualité n'est pas... C'est pas renoncer à ce que offre la vie en général. Hein. C'est pas renoncer à la sexualité, par exemple. C'est pas vivre dans le sacrifice, comme certains... C'est pas vivre dans la tristesse, hein, ou vivre sérieusement, ou vivre dans le travail et dans l'effort. Pour moi, tout ça, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, tu vois. Et c'est là où je pense que beaucoup de gens peuvent ben, prendre d'autres chemins qui sont différents du bien. Et pour moi, c'est pas les bons chemins parce que voilà, ça fait prendre des détours. Alors, bien sûr que ça serait intéressant, c'est d'avoir des témoignages. Pour les gens, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Comment ils ont vécu ça? Voilà, comment ils vivent la spiritualité, tu vois?
Oui, tout à fait. Alors, justement, pour donc les auditeurs, auditrices qui nous écoutent actuellement, n'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, pour les personnes qui écouteront par le biais du podcast, vous pouvez répondre à cette question à l'adresse radioterrazen@outlook.fr en mettant dans l'intitulé émission spiritualité en question. Voilà, je voulais lancer une petite bouteille à la mer, hein, comme ça au moins. Si des personnes veulent répondre à cette question que Jean vient de poser, n'hésitez pas surtout.
Et puis, bien sûr, bon, la spiritualité venant de l'époque New Age, on en est encore là, hein, bien souvent. Beaucoup de gens ont cru suivre un chemin de la spiritualité, justement en étant dans le sacrifice ou en ayant des vies qui ne correspondaient pas, à mon sens, à ce qu'est vraiment la spiritualité. La vraie spiritualité, c'est la vie normale, hein. On n'est pas, c'est pas parce qu'on prend un chemin spirituel qu'on est obligé de prendre un chemin à part. Non, non, pas du tout. Pas du tout. La spiritualité, c'est accessible à tous. C'est dans la vie de tous les jours. Sinon, les gens peuvent penser que la spiritualité,
La religion.
c'est... Alors, il y en a qui pensent que c'est la religion.
Voilà.
Oui, pourquoi pas, c'est une voie aussi, la religion. Mais la religion, bon, on va pas en parler.
Non.
Mais certains pensent que prendre des voies comment dire, être spirituel, c'est justement faire ci ou ça, faire telle ou telle chose. En gros, c'est pour donner de l'importance à l'ego Et bien souvent, je l'ai vu ça, on le voit ça encore. D'où cette importance à l'ego. Et la spiritualité, en fait, ça se vit au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui provient du mental et de l'intellect. Ce n'est pas, voilà, la spiritualité, c'est ça et ça et ça. OK. Mais l'important, c'est de le vivre au quotidien. Et le vivre au quotidien, c'est être dans cette conscience-là que nous sommes des êtres spirituels. Mais c'est le vivre à chaque instant de la journée. Tu vois? À chaque instant de la journée. C'est pas... Tu vois la différence, hein? Pourtant, il n'y a rien de ce que je fais, moi, comment je le vis. Je suis un être tout à fait normal. Mais quoi qu'il m'arrive dans la journée, je sais que l'être spirituel qui est moi m'a amené à vivre ça. Personne d'autre me l'a amené, personne. Je suis totalement responsable de ça. Et quand je dis « je suis », c'est l'être spirituel qui est en moi. Et à ce moment-là, je ne m'égare plus. Je ne suis plus dans le jugement. Je suis dans l'acceptation. Voilà. Il arrive ça, il arrive ça. C'est parfait. Tu vois?
Oui.
Voilà. Et c'est ça, le vivre au quotidien. Ça, c'est important de le souligner. Hein?
Oui, et sur...
Ça devient une réalité, mais c'est une réalité que je vis. Voilà. Je vis tous les jours.
Voilà. Et surtout, dans la simplicité, hein, si je peux reprendre un petit peu ce que tu expliques.
Ah oui, dans la simplicité, dans l'humilité, voilà, c'est ça. Et vivre la spiritualité, c'est vivre dans le pardon. Hein, c'est vrai que ces deux mots-là, le mot pardon est indissociable pour moi de vivre ma spiritualité. Vivre dans le pardon. Et vivre dans le pardon du matin au soir. C'est pas être je pardonne à un tel qui m'a fait ça. Non, non, c'est pas ça le pardon pour moi. Vivre dans le pardon tous les jours, c'est d'être justement dans la responsabilité de tout ce qui m'arrive, dans l'acceptation, sans jugement, avec plein de gratitude, et dans un lâcher-prise total. Tu vois?
D'accord.
C'est ça, le pardon. Et quand je vis le pardon, je sais que je vis ma spiritualité. Parce que je sais que quand je dis « je suis responsable de tout ce qui m'arrive », quand je dis « je », c'est l'être spirituel qui est en moi. Tu vois?
Oui.
Et ça, c'est vraiment chaque chose qui m'arrive dans la journée, j'y pense. J'ai pas à y penser. Je suis ça tout le temps, tu vois. Tout simplement.
Voilà. D'accord. D'accord. Alors, je viens de recevoir une question donc de Alain.
Oui.
Donc, il me dit donc bonsoir, je me présente Alain, 35 ans. Et j'aimerais savoir si Ho Oponopono pourrait m'aider dans dyspraxie qui s'ajoute à ma dyslexie. Cela m'empêche de pouvoir écrire à des amis. Merci beaucoup en tout cas.
Ah. Alors, oui, mais Ho Oponopono, quand on pratique Ho Oponopono, quel est le seul objectif qu'on peut avoir? C'est d'être en paix. C'est d'être en paix. Alors, quand j'ai une maladie, quelle qu'elle soit, si ça peut être la dyslexie ou un cancer ou le diabète, eh bien, ce sont des mémoires en moi qui ont créé cela. Ce sont des mémoires que j'ai. La pratique de Ho Oponopono nous invite à nettoyer ces mémoires, tout simplement. Hein? Mais quand je pratique Ho Oponopono, ce n'est pas dans le but de guérir ma maladie. Non, alors là, ça ne marche pas. D'ailleurs, le mot Ho Oponopono avec le mot médecine, c'est incompatible. Hein? Ho Oponopono n'est pas une thérapie. Ho Oponopono n'est pas une médecine. Je l'ai vu écrit, je ne sais plus où, la médecine Ho Oponopono.
Oui.
Non, non, c'est... Non, il n'y a pas de médecine Ho Oponopono. Ho Oponopono, c'est un art de vivre qui nous invite, par sa pratique, de vivre en paix. Rien de plus. Mais quand je suis en paix, et sans attente, bien sûr, hein, on n'attend aucun résultat quand on pratique Ho Oponopono. On n'attend aucun résultat. Mais quand je suis en paix, eh bien, il peut se passer n'importe quoi. Il peut se passer beaucoup de choses. Et il peut se passer que des mémoires se nettoient. Et il peut se passer qu'une maladie eh bien, laisse la place à la santé. Ça peut arriver. Ça arrive.
D'accord. Donc, pour reprendre en fait ce que Alain vient de nous exposer. Donc sa maladie en fait ce serait des mémoires qu'il a en lui à nettoyer, qu'il peut utiliser justement au Ho'oponopono.
Voilà, et l'objectif, c'est d'être en paix. Rien d'autre, être en paix. Et quand on est en paix, si un être sur Terre arrivait à être en paix à 100% toute la journée, il n'aurait aucune maladie. Il ne peut pas avoir aucune maladie. C'est clair, quoi, hein? Parce que quand on est en paix, c'est qu'on est dans le pardon complet, on est dans l'amour, et l'amour, c'est le meilleur médicament contre toutes les maladies, hein? Donc c'est un sentiment commun, le pardon et l'amour. Le pardon étant la porte à l'amour, la paix et le pardon sont indissociables, un amène l'autre. Voilà tout ce que je peux dire là-dessus. Mais quand on a une maladie, moi-même j'ai des petits problèmes dans le corps, hein, eh bien je pratique Ho Oponopono pour être en paix. Et je m'en occupe pas des maladies, je les oublie. Et puis, je peux te dire, Cédric, que c'est arrivé que des maladies. Au bout d'un moment, j'y pense, je dis, et cette maladie que j'avais là, et ce truc que j'avais là, ce mal au genou, mais ça a disparu. Bon, je ne crie pas sous les toits, je ne dis rien, je ne sais rien, je continue de vivre et je continue de pratiquer Ho Oponopono, et je suis très heureux comme ça. Tu vois?
Oui. D'ailleurs, justement, par rapport aux maladies, parce que je viens juste d'y penser, il y a deux ouvrages en fait qui sont très intéressants par rapport à ça pour décoder en fait le livre de Jacques Martel, le dictionnaire des mots et maladies. Je sais plus trop exactement le titre, mais bon, c'est le best-seller de Jacques Martel.
C'est le dictionnaire des symptômes et des maladies.
Voilà, tout à fait. Et aussi le livre de Lise Bourbeau aussi.
Alors, oui, bien sûr. Je les connais, ces deux. Le livre de Jacques, je connais bien.
Oui.
J'ai lui organisé une jolie conférence, un joli stage ici dans ma région, il y a pas mal d'années. Et son livre, il l'a écrit il y a pas mal d'années.
Oui, tout à
Et
fait.
Jacques, c'est vrai que ce livre est superbe.
Oui, ah, c'est une référence, on peut dire. Hein.
Oui.
Et celui de Lise Bourbeau, il s'en rapproche un petit peu aussi. Bon, elle, c'est d'une autre manière, parce qu'elle a écrit bon, plusieurs livres, Aime ton corps, et puis aussi.
Oui, mais Lise Bourbeau, c'est intéressant aussi ce qu'elle fait. C'est intéressant, je n'ai rien à redire là-dessus. En revanche, pour venir à Jacques, il a eu le même enseignant que moi, c'est le docteur Claude Sabat.
D'accord.
Et c'est vrai que Jacques a écrit ça en s'inspirant de l'enseignement de Claude Sabat. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec Claude Sabat et j'ai moi-même écrit un livre, mais que je n'ai jamais diffusé parce qu'il me servait pour mes formations.
D'accord, oui.
Et c'est vrai que là-dedans, j'ai écrit aussi le détail de. J'ai écrit minutieusement le sens de toutes les maladies. Et c'est passionnant.
Ouais, bah, moi je peux confirmer qu'à chaque fois que j'avais des trucs comme ça, que j'avais la curiosité de regarder dans ce dictionnaire. À chaque fois, ça tombait pile poil sur des choses, quoi. C'est vraiment hallucinant. Et je suis pas le seul, hein.
Oui, mais moi je lis ce livre et c'est vrai que je l'ouvre de temps en temps. Et c'est-à-dire que c'est vrai que bon, il s'est inspiré de Claude Sabat, mais il a rajouté une sensibilité extraordinaire dans tout son décodage. Et c'est très, très intéressant. Quelquefois, c'est très percutant. Ouais, c'est vrai. Ouais.
D'accord. Donc là, bon, Alain, si vous nous écoutez toujours, ça pourrait être un livre à la rigueur à feuilleter pour voir par rapport à ce que vous nous avez dit sur la dyslexie, la dysphrasie.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Ça
Maintenant,
peut
il y
être
a d'autres
intéressant.
livres, hein, en décodage, purement
Oui.
décodage biologique. Des livres de Salomon Selam, des livres de Christian Flesch, des livres. Il y en a plusieurs qui ont écrit, qui ont édité. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis des livres, ah oui, de Robert Guinet. Ah oui, Robert Guinet. Fabuleux, fabuleux. Robert Guinet, c'est un Belge, médecin.
D'accord, moi je.
Robert Guinet.
D'accord, ok. Moi je les connais pas, mais c'est vrai que ce que j'ai trouvé ce livre de Jacques Martel, c'est que c'est vraiment très simple. C'est vraiment assez simple, c'est expliqué simplement, et c'est vrai que c'est enfin, facilement compréhensible.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a une revue dans ce domaine de la médecine, c'est la revue Néo Santé, que je recommande vivement à tous ceux qui s'y intéressent. La revue Néo Santé. Vraiment, vous avez tous ceux qui ont des problèmes de santé, ils vont trouver des solutions absolument sur tout dans cette revue-là. Ouais.
D'accord.
Une revue belge.
D'accord. Et ça, c'est une revue, ben, si c'est belge, ça se trouve en kiosque, enfin chez les
Alors, elle ne
libraires.
se trouve pas en kiosque. Néo Santé, il faudrait aller sur mon site et avoir des renseignements, mais Néo Santé, tu mets Néo Santé sur Google Tu vas tomber sur le site de
D'accord.
Néosanté et là, on va t'indiquer comment faire. Moi, je suis abonné, je reçois tous les mois, oui, tous les mois.
D'accord, ok.
Et donc, depuis plusieurs années, je les ai tous maintenant. Voilà. Donc, il y a une cinquantaine de numéros, un peu plus. Et quand on a tous les numéros, c'est vrai que là, on a une mine d'informations. Une mine d'informations dont je me sers. Alors là-dedans, il y a beaucoup de gens que j'ai connus en formation, hein, des gens avec qui on était sur les mêmes bancs d'école, mais beaucoup de médecins, la plupart sont médecins d'ailleurs, et qui ont beaucoup travaillé, qui font des textes superbes, superbes. Il y en a qui travaillent bien. Il y en a qui travaillent bien.
D'accord,
Voilà, à
ok.
ce sujet.
C'est une revue qui est encore éditée ou ce sont juste des anciens numéros?
Non, 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 elle sort tous les mois.
D'accord.
Mais on peut racheter les anciens numéros, c'est vrai, moi c'est ce que j'avais fait, puis ensuite là, je reçois pour avoir la collection complète, et c'est vrai que là on a un panel de toutes les maladies, ça devient comme un espèce de dictionnaire énorme, quoi, hein. Et on peut tout retrouver, quoi, voilà. Moi j'avais racheté les anciens numéros quand je l'ai découverte, cette revue.
D'accord, là je regarde en même temps. Oui, donc en fait c'est www.neosante.eu pour les personnes qui seraient intéressées.
Voilà. Très important, ouais.
Ouais, c'est ça, revenu mensuel sur la santé réalisé en Belgique. Voilà, ok.
D'ailleurs, Jacques écrit, il est arrivé d'écrire pour Néo Santé aussi. Jacques Martel.
D'accord. Donc voilà, donc si Alain, si on a répondu à votre question ou si vous avez des fois peut-être envie de complémenter, surtout n'hésitez pas. Et donc aux autres auditeurs, auditrices qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser vos questions comme a fait donc Alain. Jean, donc ce qu'on parlait donc par rapport à la spiritualité, pour revenir un petit peu, donc comme tu as dit, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion, parce que souvent on voit très souvent le terme spiritualité et religion associés. Donc pour toi, en fait, ce sont deux choses qui sont peut-être proches, mais pas du tout identiques, en fait.
Ben non, oui, effectivement, dans toutes les religions, il y a ce volet spirituel, mais les religions, elles ont été édifiées, construites par des hommes, et des hommes épris de pouvoir. Et donc les religions, à leur début, et d'ailleurs, c'est toujours ainsi, les religions ont été faites pour asseoir le pouvoir de certains. Et ça continue, bien sûr. Voilà. Donc, ce qui fait que dans tous les textes qui composent ces religions, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, qu'on est obligé de rejeter. Mais le fond est qu'il y a beaucoup de choses vraies dedans. Donc, c'est vrai que la spiritualité est présente, mais elle n'est pas présentée telle que je la décris moi. Hein, voilà. Voilà. Mais sur les religions, on pourrait parler des heures, Cédric.
Oui, ça, je
J'en
me
sais un
doute.
bout là-dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est un monde. Et les religions, comment elles ont été créées, à quelle époque, on peut tout comprendre. Hein, pourquoi elles ont été créées, par qui, pourquoi, dans quel but, et pourquoi elles se maintiennent toujours et qu'elles sont toujours aussi fortes. Voilà. Et il y a toujours des guerres de religion.
Oui.
Voilà. Bon, les religions, c'est aussi un peu. Qui disait que c'était l'opium du peuple? Je ne sais pas si c'est Napoléon ou Henri IV, lequel disait ça. Je ne sais plus.
Alors effectivement, je connais cette
Ah.
citation-là, pardon, mais alors c'est vrai que je sais.
Oui, mais c'est toujours d'actualité.
Oui,
C'est
oui.
voilà, l'opium du peuple, c'est voilà. Au même titre que. Maintenant, la religion, j'ai rien contre les religions, bien entendu. Moi, j'étais dans la religion catholique et j'ai été jusqu'à 20 ans. Donc, je voulais même être prêtre un fut un temps, donc ça m'intéressait beaucoup et je me sentais vraiment très proche, quoi, de. Puis peu à peu j'ai découvert que bah, c'était pas tout à fait ça, voilà.
Oui, c'était tout un chemin en fait.
Et voilà. Mais il n'empêche que j'ai énormément de plaisir de rentrer dans une église, une cathédrale, quand il n'y a personne, quand c'est voilà, pour passer un moment, faire une méditation. Ce sont des endroits superbes, hein, parce que quand ils sont construits. Quand les gens ont construit les cathédrales, les églises, bah, ils savaient des choses, hein, ils savaient où construire. Voilà. Donc, il y a des choses extraordinaires dans les religions. Mais le but des religions, bah, moi, ne me convient pas. Voilà. Me convient pas. Et ne serait-ce que dans la religion catholique, il y a une chose que je ne peux pas, qui me fait toujours un peu mal, c'est quand on parle du pécheur, hein, que nous sommes
Oui.
tous pécheurs. Hein, je suis désolé, mais moi je considère qu'il n'y a aucun pécheur. Hein. Personne n'est coupable dans la vie. Il n'y a pas de pécheur, il n'y a pas de victime. Tout ça n'existe pas. Ça, c'est des inventions des hommes. Dieu n'a jamais dit ça. Hein.
Brebis égarées et compagnie.
Et voilà. Il n'y a pas un Dieu vengeur qui juge. Personne ne juge. Hein. Personne ne juge. Il n'y a pas un Dieu qui juge. Ça, c'est impossible. Puisque Dieu est amour. Et quand on est amour, ben, il n'y a pas de jugement. Hein. Il y a acceptation. Hein. Alors, et c'est ça qui, voilà, quand je te dis ces deux idées-là, en fait, tout est construit un peu là-dessus, quoi.
D'accord. Alors, j'ai Alain en fait qui a répondu donc suite à ton
Oui.
intervention, qui dit merci pour vos réponses. J'ai pris note de vos références de livres. Je vais trouver ma paix. Alors après, il demande, j'aimerais savoir si vous donnez des conférences dans l'Hérault d'ici peu.
Ah ben une demain soir, tiens.
Ah,
Donc,
ben voilà. Synchronicité.
oui, demain soir. Mais
D'accord.
des conférences, oui, j'en donne quand on nous appelle quelque part. On en fait un peu partout. On nous en a demandé en Suisse, là, oui, deux. Et une, tiens, dernièrement au Guatemala. Voilà.
Ah oui,
C'est un peu plus
effectivement.
loin,
Oui,
là.
c'est un peu plus loin,
Ouais.
oui.
En octobre, on sera au Guatemala pour faire des conférences et des ateliers.
D'accord. Alors, justement, donc, là, tu as dit qu'il y en a une demain, donc une conférence dans l'Hérault. Si tu peux donner des précisions, des fois, si Alain est intéressé pour justement venir.
Alors oui, bien sûr, s'il n'habite pas loin. Alors, Anyan, c'est un charmant petit village qui possède un observatoire. Et donc, on va m'inviter demain pour aller voir un peu les étoiles et les planètes, parce que ça me passionne. Et donc, on va faire une conférence avec mon épouse. Et le titre, oh, c'est un titre, un intitulé qu'on a beaucoup pratiqué, c'est La paix commence avec moi. La paix commence avec moi, avec Ho Oponopono. Et donc une conférence qui va durer 1 heure, 1 heure et quart, et après il y aura des questions. Voilà.
D'accord. Donc, il peut retrouver toutes ces modalités sur ton site.
Oui. Il pourra tout retrouver sur le site à stage et la rubrique stage et conférences.
D'accord. Donc, sur éveil et santé.
Oui, sur éveil et santé. Exactement.
D'accord. Voilà. Parce que vu qu'il a posé la question, comme ça, au moins, si d'autres personnes qui nous écoutent sont intéressées par cette conférence, au moins, donc, ils pourront poser, peut-être approfondir un petit peu, peut-être hors conférence, poser des questions. Par rapport à ce qu'il vient de nous exposer.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je réponds volontiers. Hein. Je réponds volontiers. Je passe d'ailleurs beaucoup d'heures par jour à répondre dans mes courriers. Et pour ça que j'ai beaucoup de retard. Mais je réponds.
Et c'est justement pour ça qu'on a créé cette émission ensemble, par rapport aux questions de personnes qui ne te connaîtraient pas ou qui rechercheraient des informations. C'est pour ça qu'on a créé cette émission pour justement répondre à vos questions. Les plus simplement possible. Et puis après, si vous voulez approfondir, surtout n'hésitez pas à entrer en contact avec Jean directement.
Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, mais s'il y a d'autres questions.
Alors là, pour l'instant, j'en ai pas d'autres qui sont venus, hein. Bon, il reste encore deux, on va dire deux, trois petites minutes avant de finir l'émission, parce qu'on a commencé un petit peu en retard. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure cette émission de ce soir, hein, la première émission du mois, parce que je rappelle, hein, il y en aura une autre à la fin
Énorme.
du mois, hein, comme d'habitude. Donc je te laisse un petit peu le reste du temps.
Eh bien, je m'inspire beaucoup en ce moment d'un Espagnol qui s'appelle Emilio Carrillo. Alors j'en parle souvent, des fois je me dis, oh, j'en parle peut-être un peu trop, je vais saouler les gens, mais cet homme-là, moi, il ne me fatigue pas, je lis énormément de ce qu'il écrit, je l'écoute avec mon épouse, on l'écoute très très souvent, quasiment tous les jours, parce qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences. Il fait beaucoup de conférences, des longues conférences, et c'est un être tout à fait extraordinaire. Malheureusement, il ne fait ses conférences qu'en espagnol. Alors, bien sûr que voilà, c'est un petit peu embêtant parce que les Français ne le connaissent que par le fait qu'on en parle, Maria Elisa et moi. Je traduis quelquefois, là j'ai traduit un petit texte là, que je vais envoyer tout à l'heure d'ailleurs. J'ai envoyé
D'accord.
une newsletter. Et lui, Emilio Calio, alors c'est un économiste, donc c'est un scientifique à la base, en politique même, puisqu'il a été adjoint au maire de la ville de Séville, en Espagne. Et donc c'est quelqu'un de très carré, d'ailleurs que ses conférences sont bien structurées. Bon. Mais il n'empêche que cet homme-là, lui, il va chercher des infos là où il veut. Hein. C'est-à-dire, il sort de son corps et il va à la chasse aux infos, en quelque sorte. Et il sait des choses tout à fait fantastiques, quoi. Voilà. Bien sûr, quand je dis ça, quand on écoute des gens qui racontent des choses tout à fait extraordinaires, je ne conseille pas aux gens d'écouter et puis de croire systématiquement. Non, non. On peut écouter des choses, on n'est pas obligé de les croire. Et Emilio, ben, je fais pareil avec lui. La seule chose, c'est que, en fait, on a à l'intérieur de nous, on a à l'intérieur de nous une énorme capacité à entrevoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et c'est ça qu'il faut développer, le discernement. Hein. Alors moi, c'est ce que je fais journellement depuis des années. Je suis sûr de rien, bien sûr. Et pourtant, je suis arrivé à aiguiser mon discernement. Ce qui fait que quand j'écoute Emilio et d'autres, je me fais un jugement assez rapidement de ce qui est très juste, mais juste pour moi, hein, et de ce qui est un peu moins. Et ce qui est un peu moins, ben je le laisse. Voilà. En tous les cas, Emilio Carrillo raconte des choses tout à fait extraordinaires. Et lui, la spiritualité, il connaît. Alors, c'est un être, je ne veux pas le qualifier. Certains diraient que c'est un avatar, tu sais. Possible, possible. Bon, ça m'est égal de savoir qu'il soit un avatar ou pas. En tous les cas, c'est un être spirituel de très haut niveau. Très haut niveau. Donc voilà, c'est de lui dont je m'inspire un petit peu parce que c'est une source inépuisable. Donc moi, je vais là où c'est bon à évoluer. Hein. Et il m'oblige à travailler mon espagnol. Alors je fais beaucoup de traductions et je vais continuer. On a fait une vidéo il y a quelque temps. On l'a interviewé. Marie-Elisa l'a interviewé en espagnol. Et on a mis cette vidéo en français avec ma voix où je le double. J'invite tous les gens à l'écouter.
Pareil depuis Éveillé Santé.
Alors, de Éveil et Santé, oui, c'est dans Éveil et Santé. On va le trouver dans blog, je ne sais plus. Bon, on peut le trouver facilement. Voilà. C'est une vidéo. Elle est en espagnol et elle est en français. Et là, vraiment, c'est très intéressant de l'écouter. Et il parle notamment, et comme fait d'exprès, on l'a interviewé après le 13 novembre, après les attentats, alors que le rendez-vous était pris 3 mois à l'avance. Et donc, il nous a fait une réponse en rapport avec les attentats. Hein. Voilà. Donc, c'était très intéressant. Pourquoi les attentats? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, ces attentats? Qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre, etc. Voilà, donc, voilà, je conclue là-dessus. Je voulais parler des milieux parce que, y a des êtres comme ça, et donc c'est intéressant de les trouver et d'aller les écouter. Et il y en a d'autres, il y en a en France. En France, je connais par exemple Sylvain Duboulet. Du boulet, j'invite les gens qui le connaissent d'aller l'écouter, d'aller le rencontrer. Voilà, c'est quelqu'un qui parle bien, quoi. Qui parle bien du pardon. Il connaît le cours en miracle. Voilà. Puis en anglais, il y en a beaucoup d'autres. Voilà.
On va dire
Donc
ça.
voilà ce que je pouvais dire là-dessus.
Ok, bon bah sur ces bonnes paroles, on va donc conclure cette émission de spiritualité en question. Donc je remercie tous les auditrices, auditeurs qui nous ont écoutés et surtout bon, personnes qui ont participé à poser vos questions. Surtout, n'hésitez pas à voter, oula, à voter, à poser vos questions, hein, surtout, hein, c'est surtout pour vous, hein, comme on dit, il n'y a pas de questions idiotes. Hein, voilà.
Non.
Ça, c'est souvent un formateur qui me répétait ça. Et donc on vous donne rendez-vous donc à la fin du mois comme d'habitude. Hein, cette émission-là, elle a été décalée de la semaine dernière. Hein, donc surtout pour rappel, c'est tous les vendredis, enfin tous les derniers vendredis de chaque mois. sauf au mois de juillet-août où ce sera donc la pause des directs. Voilà. Donc, eh ben je te dis à très bientôt, Jean.
À très bientôt, Cédric.
Voilà.
Ça sera le vendredi 24, c'est ça?
Si je me trompe pas, oui, ce sera ça. Ce sera le vendredi 24. De toute façon, c'est simple, hein. C'est toujours le dernier vendredi. Oui, c'est ça, c'est le 24. Parce qu'il y a un petit décalement avec. C'est ça. Vendredi 24, en fait.
Alors, je crois que je serai en Espagne, mais c'est pareil, pas de problème.
Ah, bon, on fera de toute façon une émission, pourquoi pas, justement, pour parler
Voilà.
de Emilio. Pourquoi pas.
Et puis de Saint-Jean-de-la-Croix, parce que le 24 juin, c'est la Saint-Jean.
Ah oui, effectivement, oui, tout à fait. Ce serait en même temps, oui, ta fête pour.
Un petit mot de Saint-Jean-de-la-Croix, tiens. Oui.
D'accord, bon, bah, pas de
Merci,
soucis.
Cédric.
Bah, merci à toi et puis à très bientôt. Et je vous donne rendez-vous donc à la fin du mois pour Spiritualité en question. Et en attendant, passez une très très bonne soirée et surtout restez en paix. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.